depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André Dimboumaï, au Kassai oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre espace de débat citoyen sur Radio Okapi. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous parlons de la phase de dépôt physique des dossiers de candidature dans le cadre du recrutement des agents pour la cartographie censitaire, pour la deuxième, le deuxième recensement général de la population et de l'habitat. Dans ce studio, nous sommes avec Guy Marin Kamandji et Jean-Claude Kitima, respectivement chargés des communications et chargé des finances à Caritas Congo. Pour participer à cette émission, chers auditeurs, enregistrez-vous au 081 32 34 883, 081 32 34 883 ou laissez-nous un commentaire sur notre page Facebook Parole aux auditeurs. À la mise en onde de cette émission, Sylvain Baogueré, le live sur les réseaux sociaux est assuré par Esther Mamboté, David Moussangou, ancien Tambo, réalise cette émission et est au standard sous la supervision, bien sûr, de Jean-Marc Matouaki. À l'animation, Jocelyne Moussa Opondé. Okapi, Okapi, Okapi. Après le recrutement en ligne qui a enregistré des milliers de candidatures, une phase de dépôt physique de dossiers est organisée du 28 juillet au 13 août 2026. Cette opération concerne notamment les provinces de l'intérieur du pays avec l'appui de Caritas. Nous parlons du recrutement des agents chargés de la cartographie censitaire. C'est là dans le cadre du deuxième recensement général de la population et de l'habitat. Alors, cette opération concerne notamment les provinces de l'intérieur du pays, je le dis, avec l'appui de Caritas RDC. Mais concrètement, comment se déroule ces dépôts physiques des candidatures? Où les candidats doivent-ils se rendre? Quels documents doivent-ils fournir? Quels sont les profils recherchés et comment les candidats seront-ils sélectionnés? C'est ce que nous allons chercher à comprendre avec vous pendant 55 minutes de parole aux auditeurs. Pour en parler, je le dis, nous sommes avec Guy Marin Kamandji, chargé de communication de Caritas Congo, et Jean-Claude Kitima, lui il est chargé de finances à Caritas Congo. Bonjour messieurs et bienvenue dans ces studios.
Bonjour Madame Jocelyne.
Bonjour Madame Jocelyne, c'est Guy Marin Kamandji, comme vous l'avez dit.
Ok, alors on va y aller avec vous, Monsieur Guy Marin. Parlez-nous du rôle que joue Caritas Congo dans cette opération de recrutement des agents chargés de la cartographie censitaire.
Oui, en préliminaire, je vais rappeler que c'est de la volonté du gouvernement de la RDC. C'est le gouvernement qui a décidé, après 42 ans, de lancer le deuxième recensement général de la population et de l'habitat, RGPH2 en sigle. C'est pour avoir des données fiables, à jour et à couverture nationale. Ces statistiques sont importantes pour le développement du pays. Maintenant, cette volonté est réalisée à travers le ministère du Plan, qui a ses organes techniques. Il y a d'abord le ministère du Plan, mais il y a aussi la coordination de l'aide internationale. Et sous le plan de la conduite technique, il y a l'Institut national de la statistique et les bureaux centrales de recensement qui font ce travail. Mais par ailleurs, il y a le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA en sigle, qui s'occupe de la coordination pour la mobilisation des ressources financières et les contacts avec les bailleurs des fonds. C'est dans ce cadre-là, de cet appui stratégique technique, que le Fonds des Nations Unies pour la population a signé un mémorandum d'attente avec la Caritas Congo-Asbel, qui, agissant au nom de l'Église catholique en RDC, a eu comme mandat d'ouvrir des bureaux dans tous les 145 territoires du pays, de recevoir les dossiers physiques des candidats cartographes, puisque cette cartographie est une étape préliminaire au recensement. Et une fois ces dossiers reçus, selon les conditions qui ont été dictées par l'INS et le BCR, la Caritas va transmettre ces dossiers au bureau provinciaux de l'INS et des BCR, quitte à attendre enfin le traitement de ces dossiers et après rentrer afficher le nom des candidats retenus dans les bureaux qui sont ouverts effectivement depuis le 29 juillet 2026 dans l'ensemble du pays à travers ces 145 territoires.
Alors je rappelle le numéro de téléphone pour ceux qui veulent se joindre à nous et poser leurs questions à nos invités: 081 32 34 883 081 32 34 883 c'est notre numéro de téléphone pour poser vos questions à nos invités. Alors nous parlons aujourd'hui de la phase de dépôt physique de candidature dans les cas de recrutement des agents chargés de la cartographie censitaire pour le deuxième recensement de la population et de l'habitat. Alors je vais m'adresser à M. Jean-Claude Kitima. Dites-nous comment se déroule l'opération qui a déjà débuté depuis le 28 juillet. Comment se déroule cette opération sur le terrain et comment les candidats, enfin le candidat qui est intéressé, doit-il s'y prendre pour déposer son dossier?
Merci beaucoup, Madame Jocelyne. Comme vous le dites, depuis le 28 juillet, nous avons des bureaux ouverts dans les chefs-lieux des 145 territoires. Je vais préciser que ici, la phase actuelle ne concerne pas les villes avec Caritas, parce que ce recrutement est bimodal. La première phase était en ligne, et cette seconde phase est physique. La Caritas a ouvert des bureaux dans tous les chefs-lieux des 145 territoires, et au niveau de ces bureaux-là, nous réceptionnons tous les candidats. À une seule condition, vous arrivez physiquement sur les sites du bureau, on vous donne un formulaire qui est disponible et gratuit, et vous remplissez le formulaire avec les annexes de votre dossier, vous les déposez au niveau de ces bureaux. En contrepartie, nos équipes vous remettent un récépissé attestant que votre dossier a été reçu. Et tout cela se fait gratuitement au niveau des 145 territoires. Et c'est depuis aujourd'hui une semaine que l'opération se déroule normalement. Et il n'y a pas encore d'incident jusqu'à présent. Et nous couvrons l'ensemble du pays et nous invitons les gens d'aller déposer massivement les candidatures parce que tous nos bureaux sont ouverts du lundi au samedi, de 8h à 17h sur l'ensemble du pays.
Et les bureaux sont localisés où? Dans les installations de la Caritas?
Nos bureaux sont localisés dans les installations. Comme vous savez, nous sommes un grand réseau. Les installations de nos Caritas ont des niveaux. Au niveau de certains territoires, ce sont nos bureaux de Caritas diocésaines. Et au niveau des autres territoires, nous utilisons les locaux de l'église. Comme M. Guy Marin l'a dit, nous sommes un instrument de l'église. Nous utilisons nos paroisses et nos centres de formation. Comme à titre illustratif, si je prends quelques territoires où nous avons nos bureaux ouverts, si je prends par exemple le territoire de Calais, pour l'instant dans le site de Kivu, nous sommes dans la paroisse de Iyoussi. Et si je prends les territoires de Kabare, nous sommes dans l'école primaire de Kabare. C'est, au fait, dans les territoires, c'est facilement localisable, ainsi de suite dans l'ensemble des 145 territoires.
Et vous avez parlé des annexes au dossier. Quel candidat, quel document le candidat doit-il avoir avec lui?
C'est selon les données.
Monsieur Guy Marin peut compléter aussi.
Oui, d'accord. Merci beaucoup. Il est question d'apporter un CV actualisé, une lettre de motivation adressée au coordonnateur du bureau central de recensement, et puis des copies, une copie de la carte d'identité, et des attestations prouvant qu'on a déjà eu à travailler, notamment dans des enquêtes dans le passé. Mmh. Mais sur le plan des conditions, il faut être âgé de 18 ans à 55 ans, avoir la maîtrise des outils numériques, notamment la manipulation des tablettes et des smartphones, et aussi résider dans les territoires concernés. Donc, avoir une bonne moralité, c'est autant des critères qui sont exigés pour ces candidats qui sont partout, quoi. Alors, maintenant, pour embrayer sur ce que disait mon collègue Jean-Claude, je peux, à titre illustratif, citer, par exemple, dans le territoire de Mbanzangungu, nous sommes ouverts dans la paroisse Sainte-Thérèse de Mbanzangungu. À Songololo, c'est la paroisse Saint-Joseph. À Luozi, c'est la paroisse Notre-Dame de Fatima. Je peux aller à Idiofa. Il y a un bureau qui est ouvert dans l'enceinte de la Caritas, située sur l'avenue députée numéro 1 au quartier Ngopos à Idiofa. À Bulungu, à Massimanimba, nous sommes dans les couvents des prêtres. À Bouta, nous sommes dans les couvents des Pères Oblats, des Maries, donc les cas sont légion. Mmh. Nous avons un compte sur Facebook et là-dedans, nous sommes en train de répondre progressivement aux questions du public qui voudrait bien savoir où aller pour déposer son dossier.
Mmh. C'est vrai que Caritas se limite hein, à la réception des dossiers, si j'ai bien compris, et transmet à qui de droit. Mais vous avez parlé parmi les critères de la maîtrise hein, ou de la connaissance des outils numériques. Mais qu'en est-il de ces personnes qui sont, comme vous dites, vous êtes dans les 145 territoires, dans des milieux reculés où peut-être les gens n'ont pas l'habitude de manipuler ces outils. Est-ce que il est prévu des formations, par exemple, pour les personnes qui ont une certaine expérience, mais qui ne se sont pas encore familiarisées avec ces outils?
Oui, il est de la compétence de l'Institut national de la statistique et du Bureau central de recensement de checker, d'analyser et de retenir ces candidats au regard du critère qui est exigé. Mmh. Ce n'est pas la Caritas. La Caritas se limite à recevoir les dossiers et les acheminer vers les bureaux au chef-lieu des provinces. Mais après, nous avons appris que les candidats qui ont postulé en ligne à Kinshasa et dans certaines grandes villes du pays en sont à une étape qui va précéder leur formation. Une fois retenus, ces cartographes vont subir une formation pour être aptes à réaliser le travail qui est attendu d'eux.
Merci beaucoup. Notre standard est déjà ouvert. Je rappelle le numéro de téléphone pour ceux qui veulent encore se joindre à nous, 081 32 34 883. Et nous avons en ligne Kankolongo, Kasaï Oriental, Félix Moulumba à Kananga, Kangaloboula dans le Bandundu, et puis Gentil Basuikwamba et Marie-Paul Awa qui attendent également en ligne pour intervenir dans cette émission. Nous commençons avec Kasaï Oriental avec Kankolongo. Bonjour.
Bonjour Madame Jocelyne, bonjour à l'invité, bonjour à la Radio Kapi.
Alors Monsieur Kankolongo, on va vous demander de teindre votre poste récepteur pour nous permettre de mieux vous capter, hein, de mieux vous suivre et aux invités de bien vous répondre. Avant de prendre la parole, s'il vous plaît.
Oui, Madame Jocelyne, je pense que vous êtes à l'écoute.
On vous écoute. Allez-y, hein, vous avez la parole. Dites-nous d'abord si vous êtes au courant de cette opération, de cette phase des dépôts des candidatures dans votre province notamment.
Merci beaucoup, Madame Jocelyne, pour ce message très important. Nous sommes vraiment intéressés. Ce n'est pas la première fois que je participe dans ce débat. Mais sinon, j'avais seulement quelques questions, deux ou une question à poser à notre invité.
Allez-y.
Est-ce qu'il y a un nombre déterminé pour chaque territoire ou soit chaque province? Ça, c'est la première question. La deuxième question est celle de savoir si l'invité peut nous dire est-ce qu'il y a la pour les recours de cette opération.
On ne vous a pas bien suivi. Est-ce que vous pouvez reprendre, M. Kankolongo?
Oui, j'aimerais demander à notre invité si il y a modalité de recours, parce que la fois passée, quand on avait la chance de participer dans la CENI, on avait fait le type de recours, mais les recours qui se différenciaient à d'autres opérations. Alors, on avait rejeté ça, soi-disant, les recours n'est pas bien fait. Mm. C'est pourquoi je demande à notre invité si l'ONIP a aussi sa modalité à part.
On parle de Caritas Congo, hein. C'est Caritas, hein. Ça n'a rien à voir avec oui. L'ONIP, Monsieur Kankolongo, si vous nous suivez depuis les débuts de cette émission.
Oui, pardon, mes excuses, Madame Jocelyne. Oui, la Caritas, oui, la Caritas. Ok, notre invité peut nous dire s'il y a la modalité que la Caritas a disponibilisé pour nous.
D'accord, merci beaucoup Monsieur Kankolongo depuis le Kasaï oriental. Nous sommes à Kananga maintenant avec Monsieur Félix Moulumba. Bonjour.
Bonjour Madame Justine Moussa Mpondé, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Alors, que savez-vous sur cette phase de dépôt de candidature physique pour ce deuxième recensement de la population et de l'habitat?
Alors, je salue d'abord l'implication de Caritas dans l'organisation de cette phase de dépôt physique des candidatures pour la cartographie du deuxième recensement général de la population et de l'habitat. Mm. Vous savez, dans plusieurs provinces de l'intérieur de notre pays, beaucoup de candidats souhaitent comprendre concrètement la procédure à suivre. Mm. J'aimerais demander à l'invité, au représentant de Caritas, le candidat ayant déjà postulé en ligne, doivent-ils encore fournir un dossier?
D'accord. Est-ce que l'opération concerne aussi ceux qui ont postulé en ligne? C'est ça votre question, Félix Moulumba. Merci. Merci. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va prendre le coup de fil de Kanga Lobola qui nous attend dans le Bandou de Ville. Kanga Lobola, bonjour. Il n'est plus avec nous. On va passer à Gentil Basue Kwamba, s'il est en ligne, au Kasaï oriental, au Kasaï central. Gentil Basue Kwamba, si vous êtes en ligne, prenez la parole, activez votre micro et prenez la précaution d'éteindre votre poste récepteur tout près de vous. Si vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour Madame Joseline. Bonjour aussi à nous, à nos auditeurs de la radio Capi. Bonjour aussi à tous ceux qui m'écoutent à ce moment. C'est Gentil Basue Kwamba Chidumu depuis le territoire de Gazon pour le moment. Je voudrais seulement poser quelques questions à nos invités. Je sais pas, puisque chez nous ici on a quand même des difficultés pour vous écouter. On vous écoute en ligne. Mais à travers l'internet, mais pour le moment, il y a des coupures. On ne sait pas quand même ce qui est en train de passer là-bas. Je ne sais pas. Alors, je vous prierai vraiment quand même d'améliorer les réseaux là-bas, l'internet chez vous. La radio Capi, là, on les suivait en ligne, mais pour le moment, ça ne fonctionne pas. Alors, priez d'améliorer cela.
Merci beaucoup, c'est noté.
Vous me suivez?
C'est noté, merci. Et par rapport à notre sujet d'aujourd'hui.
Ma première question, quelles dispositions sont prises pour garantir un recrutement transparent et éviter les favoritismes les clientismes ou les interventions des personnes influentes. Deuxième question, dans plusieurs territoires, les candidats doivent parcourir de longues distances pour déposer leurs dossiers, ce qui entraîne des dépenses importantes. Pourquoi les bureaux de dépôt n'ont-ils pas été rapprochés des populations, notamment au niveau des secteurs ou des groupements, afin de faciliter la participation de tous? Troisième question, comment les jeunes des villages éloignés qui n'ont pas les moyens financiers de se déplacer jusqu'au centre de dépôt, comme à Kazumba, ici pour être à Kazumba, il fallait payer 100 000 pour être à Kazumba. Alors, à travers ça, ou bien à travers les moyens, qu'allons-nous faire, puisqu'on a aussi tendance d'aller aussi postuler? Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire à ce niveau-là? Cinquième question pour terminer, la CARTAS a-t-elle prévu des équipes mobiles ou des points temporaires de réception des dossiers dans les zones difficiles d'accès? Sixième question, j'ai beaucoup de questions.
On va donner la chance à Marie-Paul Awa de poser aussi sa question, hein, gentil, ce combat. Soyez gentil, comme votre prénom.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, gentil Basué Kwamba. Et Marie-Paul, activez déjà votre micro, s'il vous plaît. Vous êtes à Kisangani. Et si votre poste récepteur est allumé, veillez l'éteindre, hein, pour permettre une meilleure communication. Alors, vous avez la parole, Marie-Paul Awa. Bonjour.
Bonjour madame, bonjour à l'invité. Madame, merci d'abord pour m'avoir associé dans ces débats. Madame, l'on ne dira pas assez par rapport à la pertinence, bien évidemment, des processus en cours dans notre pays, la RDC. Le recensement, c'est parmi des choses que le pays a souffert pendant très longtemps par rapport à la maîtrise de sa population. Et que s'il y a déjà ces processus en cours, nous ne pouvons que remercier ceux qui ont conçu, notamment les gouvernants, qui ont conçu cette idée. Mais madame, ma crainte, elle est grande, parce que ce processus est beaucoup plus appréciable politique que technique. Pourquoi je le dis? Parce que les alliés qui prennent ces processus, madame, ce sont des alliés qui sont beaucoup plus politiques que techniques. J'aurais bien aimé, parce que vous les savez pertinemment bien, madame.
Est-ce que vous pouvez être plus explicite, hein? Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Oui, ce qui me fait dire ça, c'est quoi, madame? Dans ces pays ici, nous avons ces plus de 50 à 60 ans qu'on n'a jamais fait les recrutes, qu'on n'a jamais fait le recensement. Mmh. Et que, au moment où l'idée apparaît, ce qu'il faut d'entrée de jeu. Nous savons comment les choses se passent chez nous, madame. Ce n'est pas la première fois. Même quand nous organisons les élections, il y a toujours des méandres. Ce qu'il fallait pour ce processus important, indispensable pour le pays, il fallait faire un recours. Nous l'avons d'ailleurs suggéré lorsque l'idée était venue, qu'on doit faire le recours à une expertise étrangère à cette question. Parce qu'aujourd'hui, madame, vous et moi, nous n'avons même pas une carte d'identité. C'est depuis 81 ou 82 qu'on avait livré ces cartes. Et jusqu'à présent, on n'en a pas. Et lorsque on veut mettre en place un mécanisme pareil, où le pays a stagné pendant longtemps, il fallait faire recours à l'expertise de ceux qui ont déjà la maîtrise de cette question.
Merci beaucoup, Marie-Paul Awa. On va vraiment laisser à nos invités le soin de répondre, hein, parce que problème de connexion. Je signale déjà que ça fait 42 ans que le pays, on vous entend, mais on va permettre aux invités de répondre, parce que malheureusement la communication n'est pas de très bonne qualité, mais on a capté l'essentiel de votre préoccupation. Vous demandez à ce que Caritas ou les organisateurs en tout cas de ce recensement, de cette opération, fassent recours à une expertise étrangère, et pour cela moi je préfère que les invités répondent, parce que c'est le ministère du plan avec tous ses partenaires que vous avez cités tantôt, il y a l'UNFPA que vous avez cité, Caritas et tout. Bon, qu'est-ce que vous répondez à Marie-Paul et bien évidemment à tous les autres intervenants, notamment Gentil Basukamba, Félix Moulumba, et Kankulongo.
Merci beaucoup. Je vais commencer par M. Marie-Paul. Il a trouvé pertinent cette opération de recensement. Effectivement, c'est avec raison, puisque le recensement, en fait, ça permet à répondre à 5 questions principales. Combien sommes-nous en RDC? Qui sommes-nous? Que faisons-nous? Où vivons-nous? Comment vivons-nous? Et pour cela, le gouvernement a eu recours à agir à travers son ministère du Plan. Et le ministère du Plan a ses services techniques, l'Institut national de la statistique et le bureau central de recensement. Maintenant, au-delà de ça, le gouvernement a un partenaire stratégique que le Fonds des Nations Unies pour la population.
UNFPA.
Je ne sais pas, voilà, si Monsieur Marie-Paul voyez déjà, d'abord, c'est une expertise internationale, extérieure, qui vient en appui au gouvernement. Alors, quant à la Caritas, nous nous contentons, comme nous avons dit, de pouvoir recevoir les dossiers, et nous sommes sûrs qu'avec tous ces mécanismes qui est mis en place, on pourra facilement arriver à des résultats fiables. Alors, M. Marie-Paul avait donc émis une crainte de voir que ces processus se prennent des allures politiques ou quoi. Je ne crois pas que ce soit à ce niveau. Il faut avoir confiance aux partenaires qui sont là. Et si le personnel qui sera recruté est compétent, et sous l'encadrement de tous les mécanismes qui est mis en place, on aura des bons résultats. Et cela, ce sera 42 ans après. Je rappelle qu'il y a une disposition de l'ONU qui exige à chaque pays d'organiser des élections de recensement tous les 10 ans. Nous, nous sommes déjà en retard de 4 décennies. Et ce n'est pas bon pour un pays qui se respecte.
Monsieur Jean-Claude, vous voulez ajouter quelque chose?
Bon, on a eu beaucoup de questions, on doit répondre aux auditeurs et je commence par, je salue Monsieur Kankulongo qui a dit ici à quel nombre, le nombre n'est pas limité. Ça veut dire que nous recevons les candidatures comme nous a été demandé et on n'a pas un nombre limité.
Du moins, en tout cas, cette étape de réception
des dossiers, tout le monde peut déposer sa candidature. Est-ce qu'il existe des modalités de recours? Je dois préciser que la réception des candidatures s'arrête au 13. Notre mission s'arrête au 13. Et nous prenons les dossiers, nous les transmettons au BCR. Donc, l'analyse du dossier ne concerne pas Caritas, ni la sélection. Ça veut dire que les mécanismes de recours ne concernent pas la Caritas jusqu'à ce stade. Monsieur Félix, à partir de Kananga, voulait savoir, est-ce que ceux qui ont postulé en ligne pouvaient encore postuler physiquement? Nous avons dit que la sélection est bimodale. Ça veut dire que ceux qui ont postulé en ligne, leur dossier est déjà pris en compte dans la commission d'analyse.
Et ce sont des candidats qui sont situés dans les villes.
Dans les villes, mais cela n'empêche que quelqu'un soit dans un territoire et qu'il a une bonne connexion. Il peut postuler en ligne. Donc, tous ceux qui l'ont fait déjà en ligne, je ne vois pas l'importance de le faire physiquement parce que leur dossier est déjà pris en compte. Monsieur Gentil, à partir de Kazumba avait plusieurs questions. Les dispositifs pour éviter les favoritismes, et ça, on a répété plusieurs fois. Nous sommes là pour réceptionner les candidatures et nous réceptionnons tout le monde. Ça veut dire qu'à ce stade, nous ne pouvons pas parler de favoritisme parce que les portes sont ouvertes à tous les candidats. La sélection se fait au niveau des bureaux des Besseurs et Inès, qui, bien évidemment, ne font pas les favoritismes parce qu'ils ne connaissent personne aussi. Les bureaux n'ont-ils pas des rapprochements avec la population? Nous rappelons que la mission qui nous a été confiée par l'UNFPA, c'est de recevoir les candidatures dans les chefs-lieux des 145 territoires. Caritas est dans les chefs-lieux des 145 territoires, mais il faut comprendre que l'UNFPA a d'autres partenaires. Les autres partenaires, comme on peut citer ici, il y a l'EPSP, qui a aussi d'autres bureaux dans les territoires, et il a des bureaux dans les milieux les plus reculés, et au finish, il va amener tous les candidats au niveau, toutes les candidatures au niveau du chef-lieu de la province, et c'est à ces niveaux que la Caritas va les acheminer au chef-lieu des provinces pour analyse. Donc, il y a des bureaux dans les autres coins les plus reculés, mais pour ce qui concerne la Caritas Congo, nous nous limitons au chef-lieu des territoires.
Oui,
j'ai alors, il y a une question sur des équipes mobiles, hein, comme c'est Caritas qui s'occupe de la réception des dossiers. Est-ce que Caritas a prévu des équipes mobiles pour les zones difficiles d'accès?
Bon, si nous en restons au territoire, prenons Kazumba. Dans les territoires, nous avons des bureaux et c'est dans ces bureaux que nous recevons les candidatures. Mais comme a dit mon collègue Jean-Claude, il est prévu une autre équipe du ministère de l'EPST qui, elle, doit est censée ramasser tous les dossiers au niveau le plus reculé, épargnant ainsi nos compatriotes de se taper des kilomètres de route. Vous voyez? Alors, mais nous sommes au niveau des territoires. Pour en revenir au territoire de Kazumba comme tel, selon les données recueillies par nos équipes locales, à la date du 5 août 2026, dans le bureau de réception de Kazumba, qui est sous la coordination de la Caritas Luebo, à la date du 5 jeudi, on a reçu 88 dossiers, dont 17 femmes et 71 hommes. Donc, ça montre que l'opération est en cours. Voilà.
Ok, je veux rappeler notre numéro de téléphone. On va prendre une deuxième série de questions des auditeurs, mais pour ceux qui veulent encore se joindre à nous, les 081 32 34 883, c'est notre numéro de téléphone. Et nous avons en ligne Elinor Bukaka qui nous appelle de Kinshasa. Il sera suivi de Prince Kabuya, Agoma, Michael Baimbe, Ambandaka. Elinor Bukaka, bonjour.
Bonjour, madame.
Alors, quelle est votre préoccupation, votre question ou votre contribution à cette émission?
Oui, moi, ma question est celle-ci. J'aimerais savoir à quand le début de la formation pour Kinshasa. Deuxièmement, la formation est prévue pour combien de jours? Et troisièmement, à quand le début probable de la cartographie à travers le pays? Et c'est la quatrième question, la dernière. La formation aura lieu dans chaque commune, dans chaque commune, selon les candidatures envoyées ou bien, où les candidats seront formés dans une seule lieu. Voilà
mes quatre questions. Oui, et je crois que, Elinor, ces questions concernent le BCR, hein, qui a une mission plus large, hein. Nous parlons de Caritas Congo, qui s'occupe de la phase de dépôt physique des dossiers de candidature dans les 145 territoires du pays. Est-ce que vous avez une préoccupation, une question précise, hein, par rapport à cette opération, à cette deuxième phase, en tout cas, du dépôt des dossiers de candidature? Sinon, votre question est notée. Je pense que on pourra avoir une réponse très prochainement si on a le bureau de coordination de recensement dans ces studios. Mais nous sommes aujourd'hui là avec Caritas Congo. Si vous n'avez pas une autre préoccupation par rapport au sujet d'aujourd'hui, on va écouter Prince Kabuya qui est à Goma. Bonjour. Est-ce que Prince Kabuya est avec nous? Si oui, Prince Kabuya, ouvrez votre micro et prenez la parole. En attendant d'avoir Prince Kabuya, on peut passer à Michael Baimbe, qui est à Mbandaka. Michael Baimbe, si vous nous suivez, activez votre micro, prenez le soin d'éteindre votre poste récepteur pour que notre communication entre échange se passe dans des bonnes conditions. Michael Baimbe, est-ce que vous êtes avec nous?
Oui, je suis là, madame. Bonjour et bonjour à tous les invités de la radio Okapi.
Bonjour, Michael Baimbe, vous avez la parole.
Ouais, moi, j'ai quelques préoccupations. D'abord, je suis un agent de l'éducation nationale. Je connais bien la Caritas Congo. D'ailleurs, c'est la Caritas qui paye tous les enseignants de l'Équateur actuellement.
Oui.
En fait, je connais la crédibilité, de la Caritas Congo. Mais j'ai quelques questions à poser. Pourquoi? Parce que j'ai eu à effectuer quelques activités comme des géolocalisations qu'on faisait avec la tablette dans des écoles, dans des milliers à l'intérieur là-bas, on connaît tout ça. Mais le problème en est que tout ce que nous faisons pendant les années, bon, on a commencé, bon, quant à moi, j'ai commencé depuis 2018 jusqu'à présent, on a effectué des géolocalisations et tout ça avec la tablette. Mais il y a que nous qui sommes dans la ville, qu'on parte vers ceux qui sont dans des territoires là-bas. Alors que j'ai eu à lire, après l'offre, qu'on cherche des gens qui maîtrisent trop bien la tablette. Bon, je doute pas que ceux qui sont là-bas à l'intérieur maîtrisent aussi la tablette, mais pourquoi pas? Parce que il y a quelqu'un qui reste en Bandaka. Il y a beaucoup de gens qui maîtrisent la tablette, restent en Bandaka, mais préfèrent postuler peut-être à Bikoro, à Ingende, à Bomongo, à Basankusu. Mais on a exigé que les gens qui peuvent postuler dans des territoires doivent rester là-bas dans des territoires. Et non dans des milliers comme chef oulier de la province. Alors, ma question est celle-ci. Le recrutement, ce qui se fait partout, même dans des chefs-fouliers de la ville, et même ceux qui sont dans des territoires s'effacent, dans le même sens. Genre, il faut maîtriser toujours la tablette. Parce que, je connais bien, moi je suis des Mandaka, j'ai été à plusieurs fois dans tous les territoires.
Alors, Michael Bayembe, votre préoccupation, c'est sont ces candidats qui quittent leur milieu pour aller postuler ailleurs. Donc, vous êtes en Bandaka, mais vous allez à Bikoro pour augmenter les chances d'être recruté, alors que normalement, ce sont ces personnes, enfin, les personnes doivent être recrutées localement. Qu'est-ce que les recruteurs, on va dire, le bureau de coordination de recensement ou la Caritas, enfin, on va tenter d'avoir cette réponse. Qu'est-ce qui est prévu dans ce cas? Merci beaucoup, Michael Bayembe, pour votre question, votre intervention dans cette émission. Je ne sais pas si Prince Kabuya est de nouveau en ligne. On va le prendre. Prince Kabuya, activez votre micro, éteignez votre poste récepteur et suivez-nous à partir de votre téléphone. Bonjour.
Bonjour, madame.
Alors, vous avez la parole.
Oui, je vous appelle depuis Goma. J'avais juste une petite question à demander aux invités. Ok, quand même, la première question a été posée par un autre auditeur et c'est déjà répondu. J'avais juste la seconde question. Et que nous sommes dans une zone là occupée par des rebelles. Alors, on se demande si, une fois être sélectionné, et directement, on est directement retenu pour les postes. Et la deuxième question, si une fois être retenu, est-ce que on a déjà trouvé les préalables là où les gens puissent pour aller faire les formations? C'est ça ma question, madame.
Merci beaucoup, Prince Kabuya. Jean-Baptiste Bédidjo nous attend à Bounia. Bonjour. Vous êtes déjà en ligne, Jean-Baptiste Bédidjo.
Je suis en ligne, je vous suis 5 sur 5.
À vous la parole.
Oui, je voulais donc émettre un peu un avis par rapport avec le recrutement la RDC en général. Et ma grande préoccupation est que ça concerne 145 territoires, alors que les villes, certaines villes à l'intérieur des provinces se retrouvent aussi au sein des territoires. Alors, est-ce que la population de ces villes-là aussi sont concernées par ces recrutements ou bien, et d'office, ils sont écartés par ces recrutements? Ça, c'est ma première préoccupation. Ma deuxième préoccupation, c'est autour de la finalité de ces recensements. C'est-à-dire, à la fin, le recensement va aboutir à quoi concrètement? Est-ce que quel document on va délivrer donc aux personnes, à la population qui seront donc recensées? C'est ça donc ma grande préoccupation autour de ces dépôts de candidature.
Merci beaucoup Jean-Baptiste Bédidjo, mais on va retenir que la première question parce que la deuxième ne concerne pas Caritas qui parle ici de la phase de dépôt des candidatures physiques hein, pour les agents chargés de la cartographie censitaire. Donc on va s'en tenir qu'à la première question et réserver la deuxième au bureau de coordination du recensement si on l'aura prochainement dans ce studio. On termine cette série de questions avec Godefroy Madimba qui est à Cabinda. Godefroy Madimba, bonjour.
Bonjour Madame Jocelyne Moussa Opondé, vous me suivez?
On vous suit, vous avez la parole.
Merci beaucoup, je vous salue. Je salue tous les auditeurs de la radio Okapi.
Et alors,
ma préoccupation est de la suivante.
Oui.
Est-ce que nos deux invités là qui sont de la Caritas ne peuvent pas seulement faire en sorte que ce sont dans des coins qu'il est avec les sites de recrutement puisse postuler ici à Cabinda, territoire est très est à une distance, oui, les gens qui veulent, il y a des gens
malheureusement Godefroy Madimba, la communication n'est pas de très bonne qualité, malheureusement la qualité de la liaison n'est pas bonne, on peut pas continuer à vous suivre. On a vraiment du mal à vous capter, Godefroy Madimba. Alors, Monsieur Jean-Claude Kissima et Monsieur Guimarin, comme on dit. Exactement. Voilà, on va répondre à ces préoccupations de Prince Kabuya, Michael Michael Baembe et Jean-Baptiste Bédidjo.
Ok, je peux commencer par Monsieur Prince Kabuya de Goma. Il est dans une zone occupée. Il demande une fois retenu quels sont les préalables pour aller à la formation. Vous savez, nous sommes un pays, bien que nous ayons des problèmes dans certains coins du pays. Vous êtes sans ignorer, Monsieur Prince, que nos enfants ont pu participer à l'épreuve d'examen d'État. Mm. Vous êtes aussi sans ignorer qu'il a été un moment où nous, à travers vous, à Goma, aviez besoin du sang. Après les affrontements, le sang est arrivé. Alors, c'est le même principe qui est mis en place pour que nos populations de ces coins-là du pays puissent participer et à travers leurs enfants qui seront cartographes à ces processus. Il y a mon collègue qui a parlé de la situation du Sud Kivu, par exemple. Mm. Et c'est plus ou moins le même contexte. Je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, dans les territoires de Calais, et il y a eu 14 dossiers déjà réceptionnés à Kabare, à l'école primaire de Kabare. Il y a 6 dossiers déjà réceptionnés à Walungu, dans la paroisse de Walungu, 12 dossiers. Et à Idui, au centre de formation de Caritas, il y a 8 candidatures. Et ça continue jusqu'au 13 août. Donc, cela veut dire que des dispositions sont prises une fois les candidats retenus, qu'ils soient aussi formés et ça se passe en concertation plus ou moins avec les autorités locales. Alors, quant à Monsieur Jean-Baptiste, Il s'est demandé quelle était la finalité de cette opération.
Moi, je crois qu'on va laisser cette question au bureau de coordination, mais plutôt répondre à sa question sur les villes hein, qui se retrouvent en même temps dans les territoires.
Bon, s'il y a une ville qui se trouve dans un territoire, alors le bureau sera ouvert et il pourra avancer vers ce bureau. Mmh. Est-ce que Monsieur Jean-Baptiste, avez-vous déjà fait un pas vers les bureaux? Il reste quelques jours pour déposer votre dossier. Mmh. Je crois que vous y serez le bienvenu.
Mmh. Alors, Monsieur Jean-Claude Kitima, vous allez peut-être répondre à Michael Bahembe qui s'inquiète hein, de cette situation de déplacement alors que les candidats doivent être recrutés localement. Et qu'en est-il de ceux qui quittent leur milieu où ils vivent pour aller ailleurs de manière à augmenter les chances d'être retenus? Est-ce que pour quelqu'un qui est à Mbandaka et qui va postuler à Bikoro, est-ce qu'il a la chance d'être retenu ou il va voir son dossier rejeté vu que voilà il respecte pas ce point ou ce critère?
Merci madame, je crois que je crois avoir répondu à cette question. Mm-hmm. Nous recevons toutes les candidatures.
OK.
Ça veut dire nous ne sommes pas à la phase d'analyse pour rejeter ou réceptionner qu'une candidature et laisser l'autre. Mm-hmm. Nous réceptionnons toutes les candidatures, complète ou incomplète, localisée ou non de localiser. Mm. Notre rôle, c'est de réceptionner. La phase d'analyse du dossier pourrait répondre à cette question parce que on saura est-ce que le candidat a rempli les critères pour être sélectionné. Mm. C'est dans l'analyse des dossiers et ça, ce n'est pas dans l'apanage de Caritas. Pour l'instant, Caritas reçoit tout le monde. Mm. Ça veut dire que on ne saura pas détecter lors de la réception qui vient de la zone localisée ou pas. Mm. Ça veut dire que la personne viendra avec sa candidature et la Caritas ne pourra qu'y recevoir.
Okay.
Pour parachever mon collègue, oui. Les villes en territoire, tous les territoires ont des bureaux. Mm. Pour preuve, Kalemi était un territoire, aujourd'hui c'est une ville. Ça veut dire, à quelques mètres, à Kazumba, il y a déjà Kabimba, il y a le territoire de Kabimba qui est dans la ville et il y a un bureau pour réceptionner les candidatures.
Merci. On va terminer avec cette troisième série de questions. Dounia Arsène nous appelle de la province du Sud Kivu. Bonjour Dounia Arsène. Si vous êtes en ligne, activez votre micro Dounia Arsène.
Bonjour.
Bonjour.
Une petite occupation. Moi aussi, j'avais reçu les projets depuis le 23 juin. J'ai essayé de faire, mais les liens qu'on m'avait envoyés, j'avais essayé de transférer, mais je me suis rendu compte que ma candidature n'était pas arrivée. J'apprends maintenant tout de suite là qu'il faut encore refouiller de nos sous-divisions.
On a du mal à suivre Dounia Arsène. Peut-être une réponse, hein, si on a essayé de comprendre Dounia Arsène qui s'inquiète du fait que sa candidature en ligne n'avait pas abouti, en tout cas l'opération. Et maintenant, il se demande si on oblige aux candidats de se rendre encore dans les chefs-lieux des provinces. Est-ce que c'est ça la situation? Est-ce que vous pouvez éclairer Dounia qui nous a peut-être pas bien suivi depuis le début de cette émission? Est-ce qu'il est obligé de se rendre encore on doit peut-être rappeler qu'il s'agit d'une autre phase de dépôt de candidature qui n'a rien à voir avec la première phase qui a concerné les grandes villes et qui ne concernait que les candidatures en ligne. Mais je ne vais pas parler à la place de la Caritas, hein, si vous pouvez dire quelque chose à Dounia Arsène.
Voilà, si notre compatriote Dounia, que je salue, se trouve à Bukavu, il avait eu l'occasion, comme il a avoué, de tenter une candidature en ligne. Peut-être que la connexion Internet était mauvaise et ça n'a pas abouti. Mais à l'heure qu'il est, il se trouve dans un territoire ou toujours à Bukavu. S'il est dans les chefs-lieux, c'est déjà une occasion qui a été ratée. Courage pour d'autres opportunités. Mmh. Mais s'il est dans un territoire quelconque, là, il y a encore quelques, je crois, 7 jours ou une semaine, il peut toujours tenter.
Alors, on termine avec Thomas Hogan qui nous appelle de Kisangani. Bonjour.
Oui, bonjour madame. Et bonjour à l'invité, aux invités, pardon, ici qu'à tous les auditeurs de la radio Okapi. Mmh. Madame Jocelyne, je m'avais directement à une ou deux questions à poser à, aux invités. La première question, c'est par rapport, en tout cas, comment la Caritas garantit-elle, en tout cas, la transparence dans la réception et dans la transmission des candidatures? Je ne sais pas qu'est-ce que les invités pourront nous dire quand assez. Et la deuxième question, c'est par rapport au choix, si je peux marrer cette question directement. Pourquoi seulement les choix de la Caritas? Est-ce qu'il y avait des, il n'y avait pas d'autres institutions, sans pour autant écarter à la Caritas, c'est fait très bien son travail, mais je ne sais pas, est-ce qu'il y avait, on avait lancé peut-être appel d'offres pour que d'autres entreprises ou d'autres secteurs, d'autres, je peux dire, comment dire, des organisations puissent également compétir. Comment est-ce que le gouvernement puisse seulement choisir la Caritas pour ce travail-là? C'est pas ça. Mais des petites préoccupations, comme l'État fait rapidement, madame, je suis.
Merci Thomas Hogan. On ne va pas répondre à la place du gouvernement. Hein. Caritas ne va pas répondre à la place du gouvernement. Mais peut-être savoir hein, si Caritas a répondu à un appel d'offres hein, pour obtenir, on va dire, obtenir cette mission ou ce marché, si on va dire, hein, puisque c'est de ça que Thomas veut parler. Est-ce qu'il y a eu appel d'offres, monsieur Jean-Claude Kitima?
Merci, madame. Merci. Par rapport à ça, oui, nous avons été consultés par l'UNFPA. Mmh. C'est comme on l'a dit, nous agissons sous mandat de l'UNFPA. La procédure de sélection, nous, on ne peut pas la répondre. Mais nous reconnaissons avoir été contactés par UNFPA et nous avons soumis une offre technique et financière. Et c'est sur base de cette offre technique et financière qui a fait que Caritas soit sélectionnée. Mais je dois préciser à notre auditeur Thomas que la capillarité de Caritas n'est pas à chercher dans ces pays. Et nous sommes une organisation représentée dans l'ensemble du pays et dans les 145 territoires. Et nous, dans les chefs-liers des villages, la Caritas, elle est partout. Mais ce qui a motivé UNFPA a sélectionné la Caritas, c'est dans la procédure qu'elle a engendrée, que nous ne savons pas répondre à ce niveau. Mmh. Et la transparence dans la réception des candidatures, je l'ai dit, nous donnons les récépissés aux candidats. La sélection, ce n'est pas nous et ce n'est pas à la Caritas.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment, enfin, on va terminer, hein, on tend vraiment vers la fin de l'émission. Parlez-nous du déroulement, vous l'avez déjà dit, sur terrain, est-ce qu'il y a affluence des candidats? Est-ce que vous avez l'impression que les potentiels candidats ont l'information?
Ok, merci beaucoup. La machine est en train de prendre de la vitesse. Au début, c'était assez difficile. D'abord, il y a une question de sensibilisation, à faire savoir à la population que l'opération est lancée. Dans certains coins, il y a aussi des petits incidents, comme par exemple à Mwanda, il y a un commissaire de la police qui est venu interpeller l'équipe de la Caritas pour dire pourquoi vous agissez là. Il a fallu, sans aval de l'autorité territoriale, donc il a fallu des explications et tout est rentré à l'ordre. Mais à part ça, les gens qui venaient très timidement, au premier jour, il y avait seulement des renseignements. Et après, le nombre est en train d'avancer et on en est à 90, à 60 par jour. Mais nous avons un target par rapport au fonds des Nations Unies pour la population d'avoir au moins 1000 candidatures par territoire. On y va et on espère qu'on va l'atteindre, voire même dépasser si la population se met en mouvement.
Et que dire à la population par rapport aux arnaqueurs hein, qui peuvent profiter de cette opération pour soutirer de l'argent à la population? Est-ce que ces opérations nécessitent de l'argent? Est-ce que ça se fait gratuitement?
Je l'ai dit à la dernière émission, l'opération de réception des candidatures que Caritas Congo est en train de piloter, elle est gratuite. Tout est gratuit et les bureaux sont gratuits. Et que pour éviter les arnaqueurs, on ne dépose que sa candidature au bureau de Caritas, pas chez un mandateur, et moyennant un récépissé en contrepartie. À ce moment-là, vous êtes rassuré que nous sommes arrivés à l'endroit indiqué. et au chef-lieu des territoires. Celui qui va dans une autre localité qui n'est pas le chef-lieu, ça ne concerne pas Caritas, ça concerne autre organisation.
Et cela jusqu'au 13 août. Voilà, merci beaucoup monsieur Jean-Claude Kitima et monsieur Guimara Kamandji d'avoir participé à cette émission, d'avoir répondu à nos questions et à celles des auditeurs. Merci à vous d'avoir massivement participé à cette émission, chers auditeurs. On se retrouve prochainement pour un autre numéro de Parle aux auditeurs. Entre-temps, restez à l'écoute de la fréquence de la paix. Merci.